censure, scandale, provoque, choquant.
La petite bibliothèque primitive, ou les méchants livres de l'étagère. Et cette semaine, nous prenons la direction de la Suisse avec le dernier roman de Anne-Sylvie Sprenger, La Veuve du Christ. Il est des faits divers tout à fait particuliers qui, outre le fait de nous interpeller de par leur violence et l'improbabilité de leur réalisation, viennent titiller nos fantasmes les plus sourds et obscurs. Il en est ainsi, par exemple, pour celui qui a secoué l'Autriche il y a quelques années, l'enlèvement de la toute jeune Natacha, séquestrée pendant plus de 8 ans. Ce n'est pas une nouveauté, depuis la mythologie, les raptes n'ont jamais eu de cesse d'alimenter la curiosité collective et d'en nourrir la machine à fantasmes. Qu'on ait mis depuis peu un nom dessus, syndrome de Stockholm n'y change rien. Il reste que les liens qui se tissent forcément entre le ravisseur et l'enlevé, entre le bourreau et sa victime, sont un entrelac délicat d'amour et de haine. C'est ce lien qu'explore Anne-Sylvie Sprenger dans ce roman. Léna a tout juste 10 ans lorsque le pharmacien de la petite ville où elle grandit, Victor, l'enlève et la séquestre durant une décennie dans la buanderie au sous-sol de sa maison. Mais Victor n'est pas un simple sadique, violeur en puissance qui assouvit ses besoins de contrôle. Tout comme Léna n'est pas seulement un ange qui ne comprend rien à ce qui lui arrive. Tous deux se créent un nouveau monde où les codes et rôles sont redistribués, où le manque de liberté ouvre forcément de nouveaux horizons, où l'omniprésence de Dieu se superpose à l'image du couple uni. C'est leur réalité, bien loin de la nôtre, que ce roman dessine jusqu'à la rupture finale, le suicide de Victor, la libération de Léna qui précipite pourtant étrangement sa mort au monde. En quelques pages, car ce roman est court, très court, on le regrette presque d'ailleurs, Anne-Sylvie Sprenger recrée l'horreur pour mieux la dépasser. Elle nous démontre que les choses sont bien plus complexes que ce que nous donne à voir un simple fait divers en une des journaux. La dernière ligne lue, elle nous laisse avec cette question. Qui a véritablement persécuté Léna? Son seul bourreau présumé ou bien nos certitudes qui jugent et condamnent sans savoir?
Léna a 10 ans, 12 ans, 15 ans. Elle grandit sous le regard et les soins de Victor Julius Lehmann de Kalberer. 10 années d'une trouble intimité. Victor l'habille, Victor la nourrit, Victor la séquestre. Victor la baigne, Victor la menace, Victor joue avec elle, au Scrabble, aux cartes, aux dames. Victor la prive de ses parents. Victor lui apprend à lire, à écrire. Victor lui ment. Victor la fait rire. Victor la fait pleurer, Victor la berce, Victor crie, Victor lui fait peur, Victor la console. Toujours, il la console. Personne ne connaît Victor Julius Lehmann de Kalberer. En tout cas, pas comme le découvre jour après jour la petite Léna Rocha. L'enfant s'est habitué à sa présence, même plus, elle aime dormir avec lui. Elle aime sa tendresse, ses petits baisers au coucher, sa façon de l'aborder. Victor Julius Lehmann de Kalberer n'est pas un vilain garçon. Il voulait juste ne plus être seul. C'est ce que se dit dans sa tête d'enfant la petite Léna. Ses parents se sont-ils jamais autant occupés d'elle? Comme ils doivent être soulagés de ne plus l'avoir sur les bras. Depuis l'arrivée des jumeaux, ils étaient tout le temps fatigués, pressés, l'esprit ailleurs. Et puis toujours ces cris, ces bébés qui hurlent, la faim, la fatigue, les couches sales, les caprices. Léna avait pris l'habitude de s'effacer pour ne pas déranger. Ici, elle peut reprendre toute la place. Victor n'est qu'à elle.